Lizzie présente Plus que parfait de Daniel Steele, lu par Sylvain Agaès. À mes enfants tant aimés, Bitty, Trevor, Todd, Nick, Samantha, Victoria, Vanessa, Max et Zara. Que votre passé, votre présent et votre avenir soient une bénédiction et un cadeau pour chacun d'entre vous. Que l'histoire que vous partagez soit un lien d'amour, de force et de tendresse, maintenant et à jamais. Avec tout mon amour, maintenant et pour toujours. Maman, Daniel Steele. Si vous connaissiez l'avenir et le passé, changeriez-vous de chemin, ou accepteriez-vous l'idée que votre destin est immuable, inévitable? Pouvons-nous modifier l'avenir ou le passé, ou seulement nous y adapter? Ou bien les deux doivent-ils être respectés et laissés tels quels? Daniel Steele. Chère audiolectrice, cher audiolecteur, je n'ai jamais apprécié les histoires de fantômes ni les livres sur les voyages dans le temps. Ils sont à mes yeux trop extravagants et pas très intéressants. Un personnage bloqué dans le temps, qui tombe amoureux d'un autre personnage ayant vécu 100 ans plus tôt et qui se retrouve à devoir choisir entre rester vivre dans ce siècle-là et abandonner tous ceux qu'il connaît dans sa vraie vie, ou quitter son grand amour pour revenir dans le présent, cela ne me plaît pas, et je dirais même que je trouve cela très frustrant. Voici donc un audiolivre inhabituel pour moi, qui reste aux confins de ce qui semble raisonnable. J'éprouve une tendresse particulière pour les maisons des siècles passés. J'ai d'ailleurs vécu dans plusieurs demeures anciennes. L'une d'entre elles, une très belle maison victorienne, était réputée abriter des fantômes, ce que je refusais d'admettre. Mais on y entendait indéniablement d'étranges bruits, et il s'y produisait des faits que personne ne pouvait expliquer. Certains ressentaient des ondes et étaient persuadés que la maison était hantée, ce que je continuais bravement de nier le temps que j'y vécus. Les vieilles maisons ont leur propre histoire, celle des gens qui y ont habité, qu'ils aient connu des jours heureux ou malheureux. Elles portent l'empreinte des événements qui y se sont déroulés. Je me suis souvent interrogé sur la véritable histoire des précédents occupants de mes différentes résidences. J'ai restauré deux maisons, et j'ai senti qu'elles avaient une âme. Je dis toujours que les habitations d'un autre temps nous entraînent en quelque sorte dans une histoire d'amour, vous les aimez ou pas. Dans Plus que parfait, une famille dynamique, un jeune couple et ses trois enfants, quittent New York pour s'installer à San Francisco, dans un très beau manoir construit un siècle plus tôt. Bien sûr, ils y apportent leur style de vie moderne, leurs ordinateurs, leurs jeux électroniques, tous les éléments de notre époque. La nuit de leur emménagement, un tremblement de terre les secoue quelque peu. Soudain, en un instant, un groupe d'élégantes et de sympathiques personnes du siècle précédent surgit d'on ne sait où, avant de disparaître aussi vite. Leurs portraits et leurs meubles de famille se trouvent encore dans la maison. Il y a des phénomènes psychiques que je ne comprends pas, mais certains jurent que cela existe. Rien de tout cela n'est facile à expliquer, ni à réfuter. Dans cette histoire, quelques jours après cette première apparition, les nouveaux propriétaires, en jeans, t-shirts et baskets, ou carrément pieds nus, pénètrent dans la salle à manger, et se retrouvent tout à coup en compagnie des premiers occupants du manoir. Élégamment vêtus, en robe du soir et queue de pie, ces gens sont en train de dîner. Les deux groupes sont les seuls capables de se voir mutuellement. Ce qui naît cette nuit-là, c'est une profonde amitié mêlée de respect entre deux familles qui vivent à un siècle d'écart, mais partagent néanmoins leur quotidien sous le même toit. Le XXe siècle a été une époque palpitante, avec deux guerres mondiales, le krach de 1929, de grands bouleversements sociaux et industriels, le premier pas d'un homme sur la Lune, et tous les incroyables changements qui se sont produits au cours de cette période. La famille d'aujourd'hui vit cette période fascinante de l'histoire avec ses nouveaux amis, tout en continuant à mener son existence moderne. Tous ces personnages se soutiennent, s'aident, partagent leurs expériences, leurs vécus. Ils se consolent, ils s'aiment, ils évoluent au contact les uns des autres grâce à une amitié qui défie le temps. C'est l'histoire poignante et touchante de deux familles qui se retrouvent par hasard à habiter la même demeure par la grâce d'une rencontre à laquelle personne ne s'attendait et qui enrichit considérablement leur vie. Je vous souhaite d'aimer mes personnages autant que je les ai aimés en écrivant ce roman. J'espère sincèrement qu'il vous plaira. Avec mon affection. Daniel. Chapitre 1. Blake Gregory laissait vagabonder son regard par-delà la fenêtre de son bureau à New York, tandis qu'il réfléchissait à la proposition que venait de lui faire le PDG d'une nouvelle start-up spécialisée dans les réseaux sociaux de haute technologie. Il avait reçu d'autres offres auparavant, émanant de sociétés installées à Boston ou ailleurs, mais aucune de vraiment attrayante, et il les avait refusées sans hésitation. Celles-ci présentaient d'indéniables avantages. Les fondateurs étaient deux jeunes hommes au palmarès prestigieux, qui avaient engrangé des fortunes avec leurs précédents projets. De ce fait, ils avaient beaucoup d'argent à investir dans leur nouvelle entreprise, qui reposait, comme les précédentes, sur des concepts simples. Il s'agissait d'appliquer les principes d'un moteur de recherche à l'univers des réseaux sociaux. Le taux de croissance potentiel était astronomique. Blake travaillait dans le domaine des hautes technologies pour une société de capital risque solide et très respectée dans la profession. Il avait bien réussi à son poste, mais la brillante idée exposée par ses deux créateurs lui donnait envie de rejoindre leur équipe. Certes, on n'était jamais certain du résultat d'une nouvelle entreprise, mais en cas de succès, on pouvait s'attendre à des profits faramineux. Et même si on n'était pas à l'abri des écueils, il serait facile de les surmonter pendant la phase de développement du projet. Cette offre avait surgi de nulle part, grâce à certains de ses contacts professionnels et à sa réputation d'analyste visionnaire, particulièrement doué dans l'évaluation des risques et doté des compétences requises pour transformer de nouvelles idées en entreprises prospères. Quant à la rémunération, on lui proposait le double de son salaire actuel. Toutefois, son avenir était assuré dans la société où il exerçait depuis 10 ans et il s'entendait bien avec ses collègues, tandis qu'il ne savait quasiment rien de cette start-up de San Francisco ni de ceux avec qui il serait amené à travailler. Il savait juste qu'ils étaient brillants, qu'ils ne manquaient pas de cran et qu'ils se montraient impitoyables en affaires. Blake n'était pas du genre à prendre des risques, mais l'offre était très tentante. En plus du salaire attractif, la rémunération comprenait également des actions dans le capital de la société lorsqu'elle serait cotée en bourse, ce qui était l'objectif affiché des investisseurs. Il se sentait rajeunir à l'idée de se lancer dans quelque chose de nouveau, dans un lieu différent. À 46 ans, il devait bien reconnaître que la routine s'était installée dans sa vie. Marié et père de 3 enfants, il redoutait généralement de lâcher la proie pour l'ombre. En outre, il préférait ne pas imaginer la réaction de sa femme, Sybille, s'il lui faisait part de cette proposition. Ils étaient tous deux d'impénitents New-Yorkais, et ils adoraient la ville où eux-mêmes et leurs enfants avaient grandi. Blake n'avait jamais envisagé de la quitter. Pourtant, si cette start-up connaissait le succès, il pourrait gagner une fortune. C'était une offre difficile à refuser. À 39 ans, Sybille avait occupé toute une palette de postes. Elle avait d'abord étudié l'architecture à Columbia, où elle avait rencontré Blake, alors sur le point d'obtenir son MBA à l'école de commerce. Elle se passionnait à l'époque pour Frank Lloyd Wright, Yeoming Pei, Frank Gehry et tous les architectes avant-gardistes de l'époque moderne. Après leur mariage et la naissance des enfants, elle s'était spécialisée dans l'architecture d'intérieur, exerçant comme consultante auprès d'entreprises de design de meubles haut de gamme. D'ailleurs, elle avait elle-même créé plusieurs pièces qui étaient devenues des modèles iconiques. Elle appréciait particulièrement les lignes épurées. Aujourd'hui, elle travaillait régulièrement pour le MoMA et le Brooklyn Museum, qu'elle conseillait dans leur choix d'acquisition pour leur collection permanente et où elle organisait des expositions. Enfin, dans le peu de temps libre qu'il lui restait, elle préparait un livre, que son éditeur lui réclamait à corps et à cri, sur les plus beaux éléments de décoration intérieure du XXe siècle.